débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour. On va parler du chantage des syndicats avant les JO. Bon, là, c'est la SNCF Île-de-France qui est en grève aujourd'hui. Les agents d'ADP, ils veulent des primes JO. Tout le monde veut sa prime JO. Il y a une espèce de quoi qu'il en coûte olympique qui s'est installée parce que le gouvernement veut surtout pas de vagues. Il faut pas qu'il y ait de chien-lit pendant les JO devant toutes les caméras du monde. Alors, on ne dit rien, on laisse passer. Bon, ben voilà, effectivement, les professions dans des entreprises qui ne risquent pas la faillite, avec des professions qui ne risquent pas le chômage, avec un pouvoir de nuisance et de blocage puissants et rapides, sont en position de force. Il n'est pas du tout incohérent qu'ils en profitent. Les syndicats seront aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils vont soutenir une proposition de loi du groupe Liotte qui veut contrer, mettre fin au projet de réforme de l'assurance chômage, attendu le 1er juillet par décret. On se demandera s'il faut ou pas réformer l'assurance chômage aujourd'hui. On dira un mot d'apprentissage. Je vous ferai la photographie d'ambiance de la santé des PME publiée hier par BPI et Rexecode. Et puis c'est déjà pas mal comme programme. Agnès Michel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes associée chez Ixos Formation. Vous allez publier un ouvrage au mois d'août. On va en dire un mot dans un instant. Guillaume Richard, bonjour.
Bonjour.
Président du groupe de services à la personne WeCare, Stéphane Van Uffel, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Alors, en août, vous allez publier un ouvrage, donc il y a juste pour l'instant le titre, pas le sous-titre, parce que tout ça est un peu en gestation, ça va s'appeler « Sortie de route ».
Oui, c'est pour remettre en question, ouvrir des perspectives de réflexion sur la place de la voiture individuelle qui est un petit peu trop omniprésente, qui coûte très cher à tout le monde en termes de santé, mais en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes pour la plupart de la population, comme
avoir
on l'a
ça,
vu ces derniers
voiture,
temps.
Ça coûte cher, oui.
Et n'ouvrons pas le débat, la voiture électrique ne résout absolument pas le sujet. C'est moins de déplacements individuels, plus de collectifs, et là, on aura une situation de mobilité plus égalitaire.
Surtout dans les campagnes.
Surtout à la campagne, tout à fait.
Mais effectivement, pour aller faire effectuer son travail,
Guillaume
comme
Richard.
Nos salariés qui, tous les jours, vont se rendre chez les personnes âgées pour pouvoir faire du maintien à domicile et qui nécessairement se déplacent de façon individuelle en allant d'un petit village à un autre petit village ou même à l'extérieur du village. Et je ne vois pas très bien comment des solutions collectives permettraient de gérer ces déplacements qui sont absolument indispensables pour se rendre à domicile.
Mais parce que vous avez un prisme francilien, le collectif...
Pas du tout, moi j'habite à la campagne. Alors pas du tout, alors là pour le coup, vous pouvez me taxer de tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas francilien.
Vous avez les transports à la demande, vous avez le covoiturage, vous avez... Non, en solution. Ça n'existe pas, mais en solution. Il y a des choses qui peuvent se développer. Je ne dis pas que ça couvrira 99,9% des cas. Ce sera plutôt du 95%. Mais par contre, pour les nuisances et pour les coûts, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on aurait tout intérêt collectivement à les mettre en œuvre.
On imagine un truc qui
ça. Dans les villes, je vis à la campagne sans voiture individuelle.
Oui, mais vous n'avez pas des contraintes d'horaire à respecter.
Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr...
Parlez pas ensemble.
Non, je suis privilégiée. J'en ai parfaitement conscience. Par contre, on arrive à mettre en place des choses et il y a beaucoup plus de solutions qu'on ne l'imagine.
Mais je suis complètement d'accord avec vous sur les grandes agglomérations et là où ça peut s'organiser, c'est bien évidemment une très bonne solution, mais ça ne résoudra pas tout. Il faut pas, enfin, il y a pas de.
Mais il y aura plus d'espace pour ceux qui en ont véritablement besoin, qui sont une toute petite
minorité.
Ça
sort en août, c'est ça. Yes, en août,
oui,
sortie
en
de route.
Chez les petits matins.
On se revoit en septembre.
Chez les petits matins, on en parlera.
Non, avec David Vélia.
Non, mais c'est un vrai sujet la mobilité. Après, il est certain qu'il y a probablement des situations comme celle que décrit Guillaume qui sont juste intraitables en solution collective.
Ah bah dans l'Isère.
Après, moi, je me demande globalement comment la population apprécierait l'idée de la mise en place d'une solution majoritairement collective.
Vous savez, ça fait même pas 100 ans qu'on est sur du déplacement majoritairement individuel. La population a réussi à vivre d'une autre façon. Faut pas non plus croire que les gens sont absolument rétifs à tout changement, hein. À partir du moment où on offre une solution qui fonctionne, qui est plus simple, qui est moins stressante et qui est beaucoup moins mortelle que la voiture, qui tue quand même 3000 personnes par an minimum, sans parler des accidentés et puis des conséquences à plus long terme, je pense que c'est plutôt ça devrait plutôt plaire aux gens.
On va attendre sortie de route et le sous-titre et puis on en reparle à la rentrée.
Tout à fait.
Avec plaisir.
De toute façon, je fais toujours un petit bout de débat dès qu'un de mes invités sort un livre. C'est la tradition.
Mais écoutez,
ça.
Ce sera avec plaisir.
Et je le ferai. Bon, alors, je vous fais le petit débrief. Donc, on en est où ? On en est à... Alors, c'est vraiment la paix sociale à prix d'or. Hein. Donc, chaque fois, c'est principalement les entreprises publiques, à l'abri de la faillite, parlons net, avec des gens, pour la plupart, sous statut, à l'abri du chômage. Parlons net. 1 000 euros bruts en moyenne pour les 30 000 agents de la RATP. Jusqu'à 2 500 euros bruts pour les conducteurs de métro et de RER. Plus de 4,5% de hausse des primes pour les contrôleurs aériens qui n'ont pas voulu dévoiler l'intégralité de l'accord qu'ils ont obtenu tant qu'il était visiblement clément. Les primes représentant la moitié de leur rémunération. Les éboueurs parisiens ont entre 600 et 1900 euros pour les JO. Les policiers, gendarmes, personnels des hôpitaux de Paris n'ont pas eu à faire grève. On a considéré qu'il était naturel que le surcroît de travail soit accompagné de primes qui vont d'un peu moins de 1000 euros jusqu'à 2500 euros pour les médecins ou jusqu'à 1900 euros pour les policiers et gendarmes. Les fonctionnaires auront entre 500 et 1500 euros. Les pompiers civils espèrent toujours obtenir quelque chose. Voilà. Bon, too much, trop salé. Stéphane, la facture sociale des JO, où il est cohérent que des gens qui ont un énorme surcroît de boulot à un moment où objectivement on préfère être en vacances, il est cohérent de les gratifier.
Oui, alors j'allais partir dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'allais quand même un tout petit peu défendre ces différents corps de métier, mais je vais maintenant rebondir dans l'autre sens pour mettre les choses dans le bon ordre. Les Jeux Olympiques dans un pays, c'est quand même une énorme fête, c'est d'énormes investissements, c'est d'énormes mobilisations, privées comme publiques, c'est pas nouveau. C'est pas que pendant les JO que les gens ont déjà un surcroît de travail, surtout tout ce qui est sécurité, santé, voirie, etc. etc. Donc, cette discussion-là qui arrive, et c'est ça qui, moi, me gêne un peu plus, cette pression qui est mise à quelques semaines de l'événement, c'est ça qui me dérange plus, dans le sens où maintenant qu'on arrive au bout et que vous aurez plus le choix, en gros, le couteau est arrivé au niveau de la gorge, on va pouvoir serrer un peu la vis et bloquer. Et moi, j'ai toujours ce problème-là, c'est-à-dire d'avoir des primes pour ces gens-là. Je donne un exemple dans l'aérien. On m'a appris il n'y a pas très longtemps que le transport d'objets spéciaux, en gros des sacs de golf, des planches de surf, des planches de planche à voile, etc. Il y en avait à peu près 4000 dans les par an à traiter dans les aéroports. Là, il y en aura 17 000 sur 3 semaines, un mois. Donc, il est évident que pour les agents des aéroports, ça va être, c'est pas un surcroît de travail, c'est une explosion de travail. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser complètement les plannings, il faut annuler les vacances, il faut les décaler, etc. Donc, je donne un exemple, il y en a 500 des exemples comme ça. Donc, ce que je veux dire juste, c'est c'est une énorme fête qui aura des conséquences, je pense, extrêmement positives, tant socialement que financièrement pour notre pays.
C'est toujours difficile d'estimer le bilan financier.
Tout ça a été préparé en amont par chacun des ministères, par chacun des corps d'État de la fonction publique. Et je trouve, comme d'habitude, Nicolas, mais c'est le même principe, pardonnez-moi de faire le rapport, on ne va pas parler de ça, mais c'est le même principe que de faire la grève les jours de départ en vacances, c'est pas normal. Ça, c'est, moi, ça me remet en question tout ce que j'attache à la constitutionnalité du droit de grève. Et on pourra en parler pendant des heures.
Bien qu'on
il y a un vrai sujet. Ça, pour moi, c'est une prise d'otage. C'est pas.
Et là, on n'est pas sur des grèves de vacances. On est sur des pressions syndicales pour obtenir des primes au moment des Jeux Olympiques. Avec des menaces de grève.
Oui. Je le redis, je suis chef d'entreprise. D'accord. J'ai eu des négociations. Tous les ans, nous avons des entretiens individuels. Tous les ans, nous avons des négociations. Ça se passe pas toujours bien. Bon, là, ça se prépare. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a toujours cette sensation pour nous, utilisateurs de ces services publics, et je ne parle pas en cas de JO, même le reste du temps, c'est comme ça. On ne va pas se mentir. C'est au dernier moment, au moment où, et ils n'ont pas forcément tort, ils peuvent nous tenir le couteau sous la gorge, qu'ils vont arriver à exiger des choses. Et vous l'avez dit vous-même, et on ne sait même pas le contenu des accords d'Ixit.
À la DGAC, là. Parce que voilà. Visiblement, c'était tellement, ils ont obtenu quelque chose de tellement confortable
que si les autres
pas eu trop
que si les autres le savent.
Voilà.
Non, mais vous rendez compte, on rentre dans un truc. Donc le côté collectif du droit de grève, on défend le collectif. En fait, non, on va pas le dire aux autres. Donc là, on rentre dans un truc qui, pour moi, n'est pas le droit de grève.
Il y a un député Renaissance qui a déposé une proposition de loi pour encadrer le droit de grève en évitant tous les écueils du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire il vise les grèves de 59 minutes qui n'entraînent qu'une retenue de salaire de 55
minutes.
Le délai de dépôt, il voudrait le passer de 48 à 72 heures. Interdire les grèves WhatsApp, référence à la grève des contrôleurs qui s'était construite sur les réseaux sociaux à la SNCF, mais qui n'avait donc pas d'existence légale et pour exister légalement, qui avait dû être soutenue par des syndicats qui allaient assumer le dépôt des préavis auprès de la direction. Sinon, il n'y avait pas de grève possible. Et aussi, les grèves tournantes. Enfin, non, les préavis dormants.
Préavis dormants.
Les trucs que tu mets du février à septembre pour être sûr d'être prêt le jour J. Bon.
Vous voyez, c'est quand même. On détruit un droit qui, pour moi, me semblait faire partie.
Réaction. On ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Agnès, Michel, oui. Par rapport à tout ça, ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire que personne. Enfin, si, certaines personnes sont choquées quand des grands patrons ont des moments où, en négociation, ils sont particulièrement en bonne position et donc ils peuvent s'octroyer des primes de plusieurs millions. Bon, c'est le jeu de la négociation. L'entreprise, ce n'est pas un endroit démocratique. Il y a des moyens de pression qui existent. Peut-être qu'il faut revoir les choses, mais dans ces cas-là, ouvrons le débat de façon beaucoup plus large. Ça veut dire que à partir du moment où on est où on se dit qu'on ne peut pas faire grève tout le temps, et ben mettons de la démocratie dans l'ensemble des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, avec davantage de représentativité, que les CSE aient véritablement un rôle. Je vous renvoie à des personnes qui ont fait des recherches beaucoup plus poussées que moi sur la question de la démocratie en entreprise. Je pense que dans ces cas-là, on répondra de façon beaucoup plus efficace qu'avec le bâton, qui est la réponse systématique. Et je vous rappelle qu'on parle de personnes qui sont quand même très peu payées, où il y a des pressions énormes parce qu'il y a la il y a un sous-effectif.
Ça dépend des secteurs.
Il y a des pressions énormes. Non, mais là, vous parliez au départ de la SNCF et la RATP. Ce ne sont pas des personnes qui gagnent beaucoup. Il y a des problèmes de sous-effectifs.
Agnès, ça dépend qui à la SNCF, à la RATP.
Il y a des problèmes de sous-effectifs.
Un chauffeur de TGV, il est très bien payé, soyons sérieux.
Non, mais
Il y a des sous-effectifs. Il y a des tensions. Il y a des tensions qui sont. Dans ce cas, on va reparler aussi des échelonnements de salaire. Mais enfin, globalement, on a des sous-effectifs qui sont importants, donc des tensions importantes et des surcharges de travail qui existent. À un moment donné, posons tous les sujets sur la table et ne nous limitons pas à voilà. Après, s'il vous plaît, n'utilisez pas le terme prise d'otage. Il y a des choses vraiment dangereuses. Arrêtons.
Bon, vous avez raison.
Collectivement, arrêtons.
Bon, des secteurs où il y a des gens peu payés, il y en a d'autres, mais il se trouve que chaque fois, là, c'est quand même des secteurs qui ont la possibilité d'avoir une nuisance en moins d'une demi-journée sur la vie des autres. Voilà, c'est quand même.
C'est vrai, mais.
Bon, on n'est pas mal payé quand on est à la DGAC, on n'est pas mal payé dans certains métiers à la SNCF.
Je parlais de la RATP.
Oui, la RATP, les salaires en tête.
La RATP,
bon.
On n'est pas mal payé.
Guillaume Richard.
Oui, parce que justement, quand on parle des personnes qui souffrent en face de ces droits de grève et de ces grèves à répétition ou de ces dysfonctionnements, c'est qui? Ce sont les salariés, justement, qui sont obligés, eux, d'utiliser ces moyens de transport collectif parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils sont aussi, parce qu'ils habitent loin. Et moi, je pense immédiatement à mes salariés qui, eux, n'ont pas d'autre choix souvent que de prendre les transports en commun quand ils habitent dans les grandes agglomérations, parce que j'en ai qui sont dans des zones rurales et qui utilisent leur voiture, mais la plupart sont dans des grandes agglomérations, utilisent le transport en commun. Et quand il y a des salariés super privilégiés, parce que malgré tout ce que en dit Agnès, il y a des salariés qui sont très privilégiés parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi, parce que malgré tout, leurs conditions de rémunération sont extrêmement intéressantes. Et moi, que j'ai des salariés qui, derrière, ne peuvent pas aller travailler et sont privés de travailler, ils n'ont pas fait le choix, eux, de perdre de la rémunération. Ils n'ont pas fait le choix de ne pas pouvoir aller travailler, mais ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'il y a certains qui vont aller faire grève. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. Et qu'il y ait un droit de grève, oui. Qu'il y ait un abus de droit, non. Le droit, il est censé protéger le faible contre le fort. Et le droit de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller travailler, il doit aussi pouvoir exister. Et quand on est tenant d'un service de déplacement collectif, et vous avez tout à fait raison d'insister public. Sur le fait que le travail, que le déplacement collectif doit être privilégié, bah pour qu'il soit privilégié, il faut aussi qu'il fonctionne. Et s'il y a des arrêts qui ne permettent pas à certains de mes salariés et qui peuvent avoir des conséquences importantes, parce que perdre une journée de travail, perdre une journée de rémunération, perdre 100 euros quand vous avez un salaire qui dépasse juste le SMIC, eh ben c'est quand même quelque chose qui est important. Et moi, je pense aussi et avant tout à tous mes salariés qui ne peuvent plus aller travailler, qui sont empêchés de travailler. Et donc, dans ces secteurs, il doit y avoir une responsabilisation. On ne peut pas brandir le droit de grève. On ne peut pas faire grève n'importe quand. Et aujourd'hui, il y a une grève dans la SNCF Île-de-France, ça impacte certains de mes salariés et c'est pas bien.
Celui qui est à l'origine du droit de grève en 1864, alors j'ai oublié son nom, si Jean-Marc Daniel était là, il me le sortirait tout de suite. Il avait clairement dit qu'il y avait un esprit de la grève. On fait grève absolument. Contre son patron, pas contre la nation. Et c'est vrai que parfois, bon, on peut s'interroger. Réforme de l'assurance chômage.
J'allais dire surtout, c'est que le droit de grève au départ était prévu plutôt dans un secteur public où là, pour le coup, il était totalement légitime vu les conditions des salariés du secteur privé. Aujourd'hui, le droit de grève est principalement, fais attention à ce que j'utilise comme terme maintenant, Agnès,
il est extrêmement
contraignant, pas un truc qui moi me choque, en tant que chef d'entreprise privé qui ai créé mon entreprise avec mon argent sur des services public. Quand on choisit de servir le public, on sert le public. Sinon, on sert le privé.
Il y a un chantage aux JO.
Non, ça se fait pas sur les Jeux Olympiques. C'est un événement tellement exceptionnel.
La réforme de l'assurance chômage, qu'en pensez-vous, Agnès Michel? Bon, il semblerait que la durée d'indemnisation ne va pas être revue à la baisse. 18 mois, donc en dessous de 53 ans. Probablement que ce sont les conditions d'éligibilité qui vont bouger, qui vont se durcir. et également le délai de carence qui est imposé à ceux qui normalement, qui notamment ont eu une indemnité de départ à la suite d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Le bonus-malus pourrait être aussi généralisé à l'ensemble des entreprises. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous voulez. Et là, les syndicats s'y opposent et ils vont soutenir une proposition de loi du groupe Liotte qui, par tous les moyens, veut essayer de contrer ce projet de réforme de l'assurance chômage. Comment vous accueillez ce projet de réforme d'assurance chômage? Il y a des arguments pour dire qu'il faut le faire. Il y a objectivement des arguments pour dire qu'il ne faut pas.
Alors, les arguments pour lesquels il faudrait le faire, j'entends bien, c'est une vision du monde que je ne partage pas, ça vous étonnera pas.
Non.
Sur contre, le fait est qu'il n'y a pas de... J'ai re-regardé les chiffres de l'UNEDIC, il y a un équilibre, il y a une diminution de la dette qui aurait pu être beaucoup plus rapide par ailleurs si l'État ne ponctionnait pas autant les comptes de l'UNEDIC.
Vous avez raison de rappeler que
c'est pas un sujet
à la contrainte de financer France Travail, ce qui n'est pas très très cohérent.
Non, ce qui n'est pas très cohérent.
Et aussi les intermittents du spectacle, ce qui n'est pas très cohérent.
Coûteux, mais oui, d'ailleurs, si on pouvait discuter du projet de BBC à la France.
Mais on va le faire à la fin. Resserrez votre propos pour qu'on puisse justement.
Bien sûr. La question, c'est qu'effectivement, c'est pas un sujet financier, c'est un sujet qui représente une idéologie de la place du travail. Ce qui me gêne dans cette idéologie, c'est d'une part questionnons la place du travail, et questionnons surtout la qualité de ce travail. Arrêtons de toujours considérer que les personnes qui sont au chômage souhaitent l'être. Il y a probablement des cas de fraude, comme il y a des cas de fraude fiscale. Là, on reparle des cum-cum. Bon, mais ça n'est pas la majorité des personnes. Donc, c'est cette petite musique de dire qu'il faut absolument que les personnes travaillent en les pressionnant est un sujet assez inquiétant, et je ferai le parallèle avec le fait de comprimer des personnes qui, pour celles qui vont être concernées, sont principalement des personnes avec des bas salaires et des difficultés d'entrer dans l'emploi, par rapport à des baisses systématiques d'impôts et un refus très idéologique de remonter les impôts pour des classes moyennes plus privilégiées. Moi, je pense qu'il y a un problème de rupture d'équité dans la société qui se creuse et qui est très problématique et qui va nous coûter cher aussi politiquement à terme.
Les principaux arguments qui s'opposeraient à cette réforme seraient de dire que le régime du NEDIC est à l'équilibre financier et qu'il avait été indiqué qu'on ne durcirait pas les conditions en période de dégradation du marché de l'emploi, ce qui est un peu le cas. Les arguments pour défendre éventuellement cette réforme, c'est de constater qu'il y a toujours des fortes tensions sur le marché de l'emploi avec des difficultés de recrutement.
Oui, mais on ne fait pas rentrer des trous.
Et que il y avait donc oui cet argument-là. L'autre m'échappe. En tout cas,
faire des économies.
Les études empiriques montrent que vous avez des effets positifs sur l'emploi quand vous manipulez ce type de paramètres. Mais après, c'est pas très social, ok.
Mais il y a un gros problème territorial. Je ne veux pas reboucler sur la voiture. Mais il y a un problème d'accès à l'emploi qui est très territorial dans la possibilité de se déplacer vers l'emploi.
Si vous durcissez les conditions, ce sont les moins de 25 ans qui sont les premiers pénalisés et ceux qui sortent des...
Pénalisés par quoi? De retourner au travail, de retrouver une existence sociale,
pénalisés par la possibilité d'accéder à l'assurance chômage. Si vous durcissez les conditions et que vous retardez la possibilité d'accès à l'assurance chômage...
C'est-à-dire que le premier but qu'on veut donner aux gens de 25 ans en France, Nicolas, c'est surtout avoir l'assurance chômage.
Mais je vous rappelle que votre pays va mourir si on fait ça.
Non, mais bien sûr que
votre
pays va mourir de ça. J'essaye d'être très terre-à-terre et basique sur la réforme qui est en cours. Guillaume, comment est-ce que vous appréciez cette réforme qui s'annonce et qui sera décidée par décret le 1er juillet?
Alors, il y a énormément de paramètres. Moi, ce que je constate, c'est juste, j'ai encore énormément de postes qui sont non pourvus et qu'il y a certains cas où il y a obligatoirement un arbitrage qui est effectué par un certain nombre de nos salariés, pour pas dire beaucoup de nos salariés, qui préfèrent arbitrer avec un temps de travail pas trop important et un complément avec des allocations, ou un temps de chômage et du travail au black en complément. Et ça, c'est une des perversions du système. Et aujourd'hui, et en durcissant un peu les conditions, ça permet à la fois de faire des économies, et notre pays a besoin de retrouver des économies. Et ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on parle quand même de 4 à 5 milliards d'euros d'économies par an, en fonction des différents scénarios.
Oui, c'est à peu près 3, j'ai envie de dire.
C'est entre 3 et 5, en fonction des scénarios, mais c'est quand même pas mal d'argent, et qui peut être utilisé pour aussi Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si l'utilisation derrière, c'est pour favoriser, par exemple, l'apprentissage, c'est pour favoriser l'insertion des jeunes dans l'emploi, eh ben moi, j'y suis extrêmement favorable. Et donc, faire en sorte... Et par ailleurs, comparons par rapport aux autres pays. On est encore un des pays les plus généreux en la matière.
Et donc, c'était l'autre argument que je voulais...
Et on voit que ça marche dans les autres pays. Donc, à un moment, faisons en sorte... de effectivement compléter ça peut-être par des mesures sur comment est-ce qu'on favorise l'insertion de ces publics qui sont plus éloignés de l'emploi. Et ça, complètement d'accord. Sanctuarisons les éléments d'accompagnement sur l'apprentissage qui permettent vraiment et on va en dire un mot justement, permettre une meilleure insertion, une meilleure qualification, parce que la problématique numéro un de l'insertion dans l'emploi, c'est l'absence de qualification. Et donc, travaillons là-dessus en contrepartie et on aura résolu. Et je pense qu'on pourra faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Et Liotte, d'ailleurs, c'était son premier élément, c'était de dire il faut aussi réfléchir aux conditions d'accès à l'emploi et pas uniquement sur le durcissement des conditions de chômage.
On était avec Stéphane Carcillo, c'était vendredi. C'est l'un des plus grands experts de ces questions-là et notamment des études empiriques qui ont pu être menées dans les autres pays qui ont réformé l'assurance chômage. Lorsque le temps de travail exigé pour la filiation est passé de 4 à 6 mois... On a constaté qu'immédiatement, les comportements se sont ajustés à cette nouvelle donne. Évidemment. Et donc, les entreprises ont eu plutôt tendance à partir sur des contrats de 6 mois là où ils étaient de 4. Et les salariés à demander des contrats de 6 mois, profitant justement des tensions de recrutement, là où ils en auraient demandé 4 préalablement. Il y a donc des effets sur les comportements. On marque une pause. Dans un instant, réaction de Stéphane Van Uffel. Et puis, je vous lirai des courriers d'auditeurs que j'ai reçus. Ceux qui ne m'écrivent pas sur X, j'essaye de temps en temps de les citer aussi. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, associée chez Ixos Formation, Guillaume Richard, président du groupe de services à la personne WeCare, et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Alors j'ai plein d'auditeurs qui m'expliquent pourquoi eux, ils ne pourront pas avoir une voiture collective. Chacun me raconte son histoire. Je rentre dans la vie privée. Alors oui, je vous cite deux
réactions. Je les comprends tout à fait, qu'ils attendent avec impatience la sortie, ils verront qu'il y a des solutions.
Olivier m'a écrit, il vit en Chine, il nous écoute en podcast, il a voulu me donner ses réflexions sur ce qu'est devenu la Chine entre 2000 et aujourd'hui. Un mail très intéressant, un peu fleuve. Et puis également réaction de Armand, qui n'en peut plus d'entendre des solutions fiscales pour sortir à la France par le haut. Il a dû réagir. Bon, il réagit notamment à tout ce qu'on s'est raconté la semaine dernière. Je vous ferai ma liste à la Prévert, c'était merveilleux. Et il dit d'ailleurs à un moment, quand Monsieur Daniel partira, j'espère pour lui et moi le plus tard possible, je fermerai mon vieux transistor et descendrai comme lui dans la cave.
Oula.
sur les solutions fiscales, juste un petit rappel.
Pas maintenant, on va le faire.
Non, mais c'est juste que...
Agnès.
Non, mais moi j'entends ce que dit ce monsieur. Mais juste, qu'est-ce que fait un État ? Il collecte de l'impôt pour assurer un certain nombre de services.
C'est
en fonction. Non, mais je veux dire, historiquement, c'est ça. Au début, c'était pour l'armée, la sécurité, mais
c'est toujours un État.
Donc, à un moment donné, ce monsieur pourrait envisager de vivre dans un modèle anarchique, mais remettons un peu.
Entre l'anarchie et le record du monde des prélèvements,
sur les impôts. De temps en temps, vous me permettrez d'aller dans l'autre sens pour rééquilibrer un peu les choses.
On va parler un peu fiscalité, parce que bon, ça m'a amusé tellement c'était presque caricatural, nos solutions la semaine dernière. Et après tout, je suis comme mes invités, je pense qu'on n'y coupera pas. Assurance chômage, réforme, un mot dessus.
Je rebondirai juste sur ce qu'on a fait il y a 2-3 mois, Nicolas, sur ce plateau. Je rebondis sur la réforme de l'assurance chômage.
Oui.
Vous avez parlé de l'UNEDIC, vous avez parlé des intermittents du spectacle, de France Travail, la première chose qu'il faut faire une bonne fois pour toutes, c'est qu'il faut arrêter de centraliser les budgets. Je le redis, vous retrouverez le podcast. On arrête de faire ça. Et si on doit faire des économies, pardon Guillaume, de 3, 4, 5 milliards sur le travail, il est hors de question que cet argent aille combler un trou dans une autre poche de l'État, comme l'appelle Agnès. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à optimiser chacune des branches fondamentales d'un droit ou d'un devoir, on l'appelle comme on veut, dans notre République. Le travail est une chose extrêmement importante. Donc si on doit faire des économies, si on doit pressuriser ou motiver, on l'appelle comme on veut, plutôt vert à moitié vide, plutôt vert à moitié plein, des gens qui sont en difficulté. Parce que perdre son travail, je vous le partage, c'est 7% les gens qui trichent avec les assédiques. Donc c'est rien en fait, hein, c'est rien du tout. Moi je dis, la totalité des budgets qui sont économisés, dans les premiers mois, les premières années, on les met sur la formation, sur l'accompagnement à retrouver un boulot, sur les longues périodes de chômage où on sort complètement socialement du rapport avec ses voisins, au travail, etc., etc. Et ça, c'est hyper important. Personne ne veut le faire, ça, Nicolas. On veut faire des économies pour les 125 milliards qu'on doit au global.
Il y a des mécanismes comme les entreprises à but d'emploi qui sont dans les territoires, dans celui où je vis, par exemple. C'est extrêmement efficace pour amener des gens vers l'emploi. Et là, pour le coup, c'est une méthode douce. Moi, je pense que ces méthodes d'accompagnement sont beaucoup plus intéressantes que le bâton.
Et on peut privatiser une partie de ces accompagnements en subventionnant des entreprises à caractère non lucratif.
Mais des entreprises.
Toutes les entreprises n'ont pas des buts lucratifs, Agnès. C'est la notion d'entreprendre qui est importante.
En l'occurrence, ce sont des entreprises et donc elles ont vocation à être à l'équilibre, pas à faire du profit, mais à être à l'équilibre.
On subventionne plutôt qu'on indemnise.
Le sujet est sur le terrain politique là, et on se souvient d'une proposition de loi de Liot qui avait donné lieu à une motion de censure qui était quasi passée à 9 voix près. Donc bon, il faut suivre au Parlement ce qui va se passer, mais la détermination de Catherine Vautrin d'aller jusqu'au bout de l'histoire par décret le 1er juillet est, semble-t-il, bien installée. On aura normalement dans les jours qui viennent les détails très précis des paramètres qui vont évoluer. Mais comme le disait effectivement Guillaume, on a un système qui reste très nettement plus clément que la plupart des pays de l'OCDE, puisque pour avoir le maximum d'indemnisation aujourd'hui en France, il faut avoir travaillé 24 mois, le maximum d'indemnisation, et aux Pays-Bas c'est 30 ans par exemple. De travail. Donc c'est pas la même chose. En Espagne ou en Italie, c'est 2 à 4 fois plus. Et pareil sur la durée d'indemnisation, la moyenne est plutôt aux alentours de 12 mois, quand on indemnise encore 18 mois. Mais bon, avançons. Justement, l'apprentissage, Guillaume Richard, ça marche très bien, mais ça coûte très cher. Et puis, il y a eu le rapport de l'OFCE de Bruno Coquet, le printemps dernier, qui constatait quand même que probablement, il faisait le bilan 2022, sur l'ensemble des quelques 460 000 contrats signés cette année-là, il estimait qu'il y en avait environ 200 000, 210 000 qui auraient, quoi qu'il arrive, existé s'il n'y avait pas eu un système d'aide de l'État à 6 000 euros l'embauche. C'est pour ça que, comme là, on est en train de courir après les milliards d'euros comme des morts de faim, comme jamais d'ailleurs, eh bien, il est possible qu'une réforme de l'apprentissage intervienne. Deux pistes sont évoquées, sans qu'aucune ne soit arrêtée pour l'instant. Soit on réduit le montant de l'aide à l'embauche en fonction du diplôme des gens. Là, il est 6 000 euros, c'est pour les moins diplômés. Et puis, à Bac plus 2, c'est un peu moins. Et puis, à Bac plus 4, c'est un peu moins. Ou alors, on décide qu'on supprime les aides à l'embauche pour ce qu'on appelle les grands groupes. Et c'est un parent pauvre de notre politique de l'emploi, l'accompagnement. Beaucoup disent, écoutez, ça coûte cher, mais ça marche. Waouh, gardons un truc qui fonctionne. Et d'autres disent, non, ça coûte trop cher avec trop d'effets d'aubaine. Alors, où est la frontière de l'effet d'aubaine supportable? Toujours le même sujet.
Il y a obligatoirement un effet d'aubaine, mais je voulais surtout m'intéresser à deux points qui ont été soulevés. Le premier, c'est grande entreprise. Une grande entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui a plus de 5000 collaborateurs.
C'est ça, c'est au-delà de l'ETI.
Moi, mon entreprise, j'ai 20 000 collaborateurs. Et je fais 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je fais un résultat qui est le résultat net qui est à quelques millions. Quel est mon rapport entre moi et Total? Il n'y en a pas. Et le seul critère, c'est ceux qui créent le plus d'emplois. Donc, à un moment, baser un critère et dire ceux qui créent beaucoup d'emplois, on va les pénaliser, je trouve que ce n'est pas très malin dans un système lié à l'apprentissage. Et le deuxième point, c'est sur est-ce qu'on doit avoir le même niveau d'aide entre une personne qui est absolument non qualifiée et qui va rentrer sur des qualifications très basses et quelqu'un qui est très qualifié et qui, de toute façon, en sortie, va avoir des salaires importants. Eh bien, très clairement, l'impact pour l'entreprise, il n'est pas du tout le même. Si je prends quelqu'un qui est en très grande école de commerce, est-ce que j'ai besoin d'avoir les 6 000 euros pour lui proposer de venir bosser dans mon entreprise d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de je ne sais pas quoi, Est-ce que ça changera quoi que ce soit si j'ai les 6 000 euros d'aide ou pas? Franchement, non. Parce que de toute façon, j'ai besoin de cette personne en sortie. Et deuxièmement, elle me coûte beaucoup moins cher en apprentissage que si j'avais embauché un jeune diplômé. Référence au cabinet de audit et audit comptable, où on va vous facturer le prix d'un apprenti, exactement le même prix qu'un jeune diplômé, et pour autant ça coûtera beaucoup moins cher. Donc c'est pas les 6000 euros sur ces Bac plus 5 qui va changer grand chose. Par contre, sur des CAP, oui, ça change beaucoup.
Vous affirmez que ça bougera pas pour les CAP. C'est évident qu'on va garder l'aide pour les CAP. Après, est-ce qu'il y aura une sélection en fonction des tailles d'entreprise? On verra, mais...
La taille d'entreprise, à mon sens, n'est pas le bon critère. C'est-à-dire, à la rigueur, regardons le résultat, le chiffre d'affaires, etc. Mais le nombre de salariés, on ne peut pas, en fait, mettre des contraintes exclusivement liées à un élément qui était le nombre de salariés, qui avait du sens à une époque où... La quasi-totalité des entreprises étaient des entreprises industrielles. Et effectivement, une entreprise industrielle de 5000 collaborateurs, c'est une très grande entreprise. Mais une entreprise de service dans le nettoyage, service dans les services à la personne, etc., à 5000 salariés, n'est pas forcément une très grande entreprise et n'a pas forcément des marges très importantes.
C'est régulièrement Sylvain Aurébi qui est à la tête d'une ETI, lui, qui a dénoncé ici le fait que en France, une entreprise, lorsqu'elle grandit, eh bien, plus elle grandit, plus elle est pénalisée.
Absolument.
Il y a un moment, c'est
plus elle a des salariés. Non, mais plus elle a des salariés, plus elle recrute.
Alors, d'accord avec l'idée, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, d'accord avec l'idée que c'est probablement sur les niveaux de diplôme qu'il faut cibler l'aide publique.
Oui.
C'est ça.
Il faut toujours privilégier les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi.
C'est ce qui sera fait, quoi qu'il arrive. Ça ne changera pas pour les gens sans qualification.
Mais effectivement, pourquoi favoriser des personnes qui, de toutes les façons, n'ont aucune difficulté à accéder à l'emploi? Pourquoi dépenser de l'argent public là-dessus? C'est un petit peu comme la fin de la taxe d'habitation les personnes les plus aisées. Pourquoi?
C'était anticonstitutionnel, Agnès. Voilà. C'était anticonstitutionnel de garder un impôt pour deux Français sur 10. À côté de ça, vous dites effectivement, des gens qui n'ont aucun problème, faut-il les subventionner? On se rend compte que on a un problème avec l'emploi industriel en France, parce que justement, l'emploi industriel qui n'a pas les mêmes allègements de cotisation et qui est déplafonné passé un certain niveau de salaire en termes de cotisation est un emploi qui coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on se félicite des investissements directs étrangers et on se déplore de voir qu'on n'a pas les mêmes nombres d'emplois créés par projet que dans les autres pays. Parce que l'emploi très qualifié est cher. Donc, voilà. Bon, j'ai un peu digressé. Je ne parle pas de l'apprentissage, mais...
Le principe de formation. Le nombre de personnes formées disponibles. Il y a sûrement un souci là-dessus.
Je peux apporter juste un truc.
Oui, allez-y.
Juste une remarque. D'abord, vous avez commencé, mon cher Nicolas, à dire « ça marche, mais c'est cher ». Bon, au moins déjà, on sait que c'est cher, mais au moins ça marche. Donc pour une fois qu'en France, on subventionne quelque chose cher qui marche, on parlait des la SNCF tout à l'heure, mais je rigole.
C'est ce que me disent mes invités qui pensent que c'est pas le moment d'y coucher.
Je vais parler sur l'éducation nationale, parce que comme c'est les entreprises aujourd'hui qui doivent former à la place de l'éducation nationale les futurs travailleurs, mais peu importe, c'est cher, mais ça marche. Donc on va faire des économies, puisque ça marche. On va le casser. Bon, ça, c'est juste ce que je voulais dire. La petite remarque que je ferai, moi, j'ai toujours eu une TPE parce que mon métier du conseil financier fait que je suis dans cette cible plutôt Bac plus 5. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne me prononce pas, sur les conflits sociaux, les choses comme ça, parce que ça se passe globalement bien. Je dis juste attention, quand même, Guillaume, sur la notion de taille et des diplômes. Je pense que beaucoup de mes confrères qui ont des micro-entreprises, souvent, c'est 3-4 personnes, et ont tous 1-2 alternants, on va dire ça comme ça, un ou deux futurs collaborateurs. Ils n'ont pas encore fondamentalement les moyens de se passer de ces quelques aides. Et je peux vous demander, si vous rapprochez des grands groupes comme l'INSEC, CAGE, les écoles de commerce qui forment des masters dans mon métier, c'est pas si simple que ça quand on a 22-23 ans, même avec un bac plus simple, de trouver ce type d'emploi qui est en fait forcément quasi obligatoire avant de rentrer dans un cabinet financier, parce que vous ne rentrez pas comme ça from scratch sans avoir fait un an, voire deux ans d'expérimentation. J'apporte juste ce petit soupçon de choses du tout petit chef d'entreprise, parce que je pense que si on réfléchit, il y a plein de domaines quand même où la toute petite entreprise, elle n'a pas encore les moyens. Tu sais qu'il compte chaque salarié qu'elle va prendre vraiment à l'avenir. Elle n'est pas dans cette optique-là. Donc attention quand même.
On verra. Pour l'instant, rien n'est arbitré. Il n'y a même pas vraiment de piste solide qui remonte de l'exécutif. Mais il va se passer des choses sur l'apprentissage. Et moi, j'ai pris un pari, c'est que cette année, pour la première fois, je pense que le crédit d'impôt recherche va morfler dans le budget 2025.
Alors,
ça,
c'est... Il était temps.
Bon. Est-ce qu'il marche?
Pas vraiment.
On fera le débat, Agnès, quand il sera vraiment attaqué. C'est un pari que j'ai pris complètement audacieux parce que j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième niche fiscale après celle des emplois à domicile en France.
Sachant que nous, c'est pas une niche fiscale, hein. C'est une création, c'est un accompagnement à la création d'emplois et à la sortie du. C'est pour ça que ça devrait pas s'appeler une niche fiscale. Bon. Les niches emploi, c'est pas la même chose que.
Niche fiscale. Je vous fais juste la photographie de BPI France Rexecode qui sort une étude régulière pour voir comment vont les PME. Vous allez me dire si vous vous retrouvez dans cette photographie. Un, la trésorerie, c'est mieux, ça s'améliore. Deux, les intentions d'investissement des PME baissent. Peu, mais baissent. Il y a assez peu de PME qui peinent à accéder au crédit. C'est plutôt une bonne nouvelle. La difficulté à recruter, problème numéro un. Premier frein à la croissance, ça reste la difficulté à recruter. Et puis, plutôt bonne nouvelle sur le terrain des retards de paiement qui reculent, mais qui restent au-dessus de leur moyenne historique. Est-ce que c'est une photographie qui correspond à une réalité qui est la vôtre? Ou que vous observez?
Ouais. Alors moi, je suis à la fois conseiller de la Banque de France au niveau départemental et élu MEDEF dans les territoires. Effectivement, c'est quelque chose que l'on voit de façon générale, mais avec des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Un point qui est quand même extrêmement important, c'est le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État qui ont été faits pendant le Covid et qui sont une vraie problématique pour un certain nombre d'entreprises qui expliquent peut-être, voire très certainement, les baisses d'intention sur les investissements, parce que quand vous devez rembourser vos PGE, ben c'est autant de moins qui part pour de l'investissement. Voilà, et effectivement, le frein numéro un qui reste la difficulté de recruter, ça c'est dans quasiment tous les secteurs, difficulté de recrutement aujourd'hui, difficulté de fidélisation, difficulté avec le taux d'absentéisme qui a explosé dans de façon générale.
C'est un mystère, ça, le taux d'absentisme qui explose.
Alors,
c'est...
non,
bah,
c'est pas
oui
un mystère.
Non, c'est.
Vous allez me dire, Agnès.
Moi, je pense que c'est pas un mystère, le taux d'absentéisme qui explose. Il est lié aussi à. Je pense, le choc après Covid.
Oui, mais dire le choc après Covid, Covid, c'était quand même en 2020. Là.
Oui, mais parce c'est que bon, ça a changé les perceptions de beaucoup de gens et,
non, je pense que oui,
et le lien au travail.
Oui, je pense que oui, effectivement. Ça a dû... l'absentisme, vous arrivez à comprendre vraiment pourquoi il a explosé de manière incroyable.
Dans l'analyse qui est faite des questions de santé au travail, d'exposition aux risques psychosociaux, on voit bien que l'absentéisme, il est de deux ordres. Alors, je laisse de côté les affections longue durée, hein, parce que évidemment, ça c'est autre chose, mais il y a ce qu'on appelle les absentéismes de respiration qui sont des moments en fait où les personnes s'absentent juste pour souffler un peu parce qu'il y a une densification du travail. Ça ne touche pas le temps de travail, mais il est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup moins de respiration.
Ça a vraiment changé ça. Est devenu plus compact en 2021, 2022, 2023.
Pas en 2021, 2022, 2023. Je pense qu'il y a eu aussi des effets de bord. Et par exemple, on voit qu'avec le développement du télétravail, qui est une bonne chose dans un certain nombre de cas, mais les journées sont beaucoup plus sans espace de position. Enfin, les gens avec qui on a des entretiens disent qu'ils décollent pas leurs fesses de leur chaise et des yeux de l'écran toute la journée.
En fait,
ça fait 10 ans qu'il y a une intensification du travail et le Covid a eu un effet effectivement de révélateur par rapport à ça. Et il y a un très bon bouquin que je vous recommande qui s'appelle Le travail pressé de Volkoff et Godard qui décrit cette intensification et qui est accentuée par le fait qu'il y ait des difficultés de recrutement, donc des difficultés à intégrer les nouvelles personnes qui arrivent sur l'entreprise, et donc les personnes aussi ne restent pas parce qu'elles sont pas bien intégrées, parce qu'il y a pas le temps de le faire, et des difficultés organisationnelles avec aussi les épidémies de reporting qui sont une très mauvaise solution.
Bon.
Voilà, à l'ensemble des managers.
Je suis frappé de cette volte-face du monde du travail en l'espace de 2-3 ans.
Et puis l'impact du télétravail, à un moment, faut quand même en parler. Le télétravail, ça peut être bien pour certains collaborateurs, c'est quand même une explosion de la cellule du travail et des relations qu'on peut y créer. Et ça crée, c'est pas forcément très positif pour beaucoup de gens, le télétravail.
Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui en reviennent, notamment aux États-Unis.
Et inversement, familialement, Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens, j'écoutais Agnès, moi j'ai beaucoup de gens qui aujourd'hui ont la sensation de travailler plus en télétravail chez eux. que quand ils sont au bureau, parce qu'il y a moins d'interaction sociale. Quand je dis interaction sociale, je, avant de me faire insulter,
ils vont à la machine à café.
Non, non, il y a des réunions, il y a des moments d'échange, des moments de création qui sont pas forcément prévus, mais qui sont toute cette émulation dont on a besoin dans nos entreprises. Bon, voilà, quand vous êtes chez vous tout seul et à part ramener le petit le soir, le matin et aller le récupérer le soir, toute la journée tout seul dans son environnement privé, qui est normalement un environnement de loisirs et de famille. Moi, je suis convaincu que ça aussi, ça bouffe un peu les gens.
J'avance. Alors oui, la séquence fiscale. Non, parce que j'ai quand même demandé à mes... Mais je crois que je vais le faire. Je vais demander à mes invités qui se sont lâchés quand même la semaine dernière. Je leur ai dit d'ailleurs, je crois que je le dis, un jour on se fait 15 minutes de baisse de dépenses et pas simplement 15 minutes de prélèvement. Alors voilà ce qu'ils m'ont proposé. C'était réparti entre mercredi et jeudi, je crois. Et c'est pas tous des odieux gauchos, voilà, qui ont le réflexe forcément impôt.
C'est pas mal d'être à gauche, vous savez.
Non, mais c'est pas mal, mais c'est pas forcément le gaucho qui est forcément là, vouloir taper sur le riche parce que c'est la meilleure solution. Donc, taxer le patrimoine du 1% le plus riche a été proposé, d'imiter la TVA en remontant les taux réduits, aligner la CSG des retraites sur le reste de la population. Les retraités en peuvent plus de cette émission. Ils se font taper sur la tête en permanence, ils me l'écrivent d'ailleurs. L'histoire de la suppression de l'abattement de 10% pour frais professionnels, dont bénéficient également les retraités, sous-indexer les pensions de retraite, encore eux, en 2025, taxer plus l'héritage, ou rétablir la taxe d'habitation. C'était Robin Rivaton, la taxe d'habitation, par exemple. Et c'était Robin Rivaton qui disait qu'il fallait démiter la TVA. Et, hostile, Guillaume.
Ouais. Il y aura toujours, je pense que sur les concours de l'épine de l'innovation, sur la fiscalité, je crois que les Français sont champions du monde.
Les élus ont plein d'idées aussi. Taxer les rachats d'actions.
Donc il y a plein de choses.
Les rentes infra-marginales.
On trouvera toujours. Je pense que le vrai sujet, il est plutôt de comment est-ce qu'on fait pour réduire les dépenses? Comment est-ce qu'on fait pour que l'État se concentre exclusivement sur ses fonctions régaliennes? Est-ce que l'État doit être un opérateur dans plein de secteurs? Je ne pense pas. Est-ce que l'État ne doit pas se contenter d'assumer ses fonctions régaliennes? Pourquoi est-ce qu'on a créé les États? Pour se défendre, pour se protéger. La première chose, c'est pour se protéger. Pour se protéger des agressions extérieures.
Donc
pour se protéger
police,
entre
armée,
nous.
Oui.
Le police, la justice. Voilà. Après, pour avoir des règles qui soient à peu près équivalentes. L'État, il est là pour protéger le faible contre le fort. C'est la raison numéro un. Et pour avoir des règles à peu près équivalentes en termes de concurrence. Est-ce que, une fois que l'État a défini les règles qui font qu'il y a la protection de l'ensemble de la population, qu'il y a le contenu qui permet de réguler les différents acteurs entre eux, est-ce qu'il doit aller plus loin et devenir lui-même opérateur? Par exemple, est-ce que l'école... Moi, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que l'école doit continuer à avoir une partie publique? Est-ce que le programme ne doit pas être de ressort de l'éducation nationale? Le programme, le suivi de son application, on voit très bien que l'école privée marche aussi très bien. Il y a des très bons établissements privés, il y a des très bons établissements publics, il y a des très mauvais établissements privés, il y a des très mauvais établissements publics.
Ça, c'est vrai.
Est-ce que l'État ne ferait pas mieux juste de donner le cadre, de dire comment ça doit se faire, et après laisser des opérateurs faire? Pareil pour l'hôpital. Il y a des très bons hôpitaux publics, il y a des très mauvais hôpitaux publics, il y a des très bons hôpitaux privés, il y a des très mauvais hôpitaux privés. On donne un cadre et derrière, les acteurs agissent.
Sont en concurrence et c'est la concurrence qui fait les ménages.
Et là, on peut avoir un État qui se concentre sur ses fonctions régaliennes et donc on baisse de façon effective une dépense concentrant l'État sur ce qui doit être le cœur de l'État.
Ça veut dire que l'État n'a pas vocation à produire de l'électricité, n'a pas vocation à faire rouler des trains, rouler des métros, rouler des bus, n'a pas
vocation
à faire de la radio et de la télé.
Il a vocation à définir des règles.
Le pouvoir est central.
Bon, n'a pas vocation non plus à animer des centres commerciaux dans les aéroports, par exemple. Donc voilà, la solution. On fera un jour un spécial dépenses. Alors je sais pas, personne ne va vouloir venir dans l'émission.
Non, mais juste là-dessus.
Agnès, par rapport à ce qu'a dit.
Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a un problème dans cette démonstration, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être un tort, mais c'est un autre sujet. Les entreprises privées, elles ont un objectif de profit.
Oui.
Alors que l'État n'a pas d'objectif de profit. D'ailleurs, l'hôpital s'est dégradé à partir du moment où on a commencé à penser que l'hôpital devait fonctionner comme une entreprise. Ce qui ne marche pas. Parce qu'en fait, la question, c'est le service. C'est la santé des gens. C'est pas de savoir si c'est rentable ou pas rentable. Donc, et la là-dessus, et comme pour les infrastructures d'ailleurs, on parle souvent de comparaison internationale. Regardons les comparaisons internationales, notamment les infrastructures ferrées qui sont extrêmement coûteuses à mettre en place, non pas et coûteuses sous plein de points de vue, et notamment la question de l'accès aux terres, etc. Ce sont des choses qui, dès qu'elles ont été privatisées à l'étranger, sont tombées, parce qu'il y avait un problème d'entretien de l'infrastructure. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont soit trop coûteux, soit ne doivent pas être au prisme du profit, qui méritent d'être public. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, il peut y avoir une délégation de services publics. Il faudrait que l'État, mais je l'ai dit un certain nombre de fois depuis que je viens ici, que l'État soit un petit peu plus costaud et véritablement se forme et investisse sur le contrôle, le cahier des charges, etc. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça concerne ni la santé, ni les infrastructures, et encore moins la culture.
Il peut y avoir des arbitrages.
Et dans le même sujet,
à partir du moment où il y a du contrôle, c'est jouable. À partir du moment où on renforcerait les conditions de contrôle, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
On l'a vu dans les EHPAD. Ça ne marchera pas.
On l'a vu dans les EHPAD. Qu'est-ce qui a dérivé? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Et il y a des très bons EHPAD privés, il y a des très mauvais. Et pareil dans les publics.
Oui, mais quand il y a pas du assez profit, de contrôle, le verre est dans le fruit. Oui, alors, sur
et le profit, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les entreprises à mission, qui n'ont pas que un seul objet qui est la profitabilité, mais qui ont aussi des objectifs de mission. Et donc là, on a un moyen de réconcilier.
Rapidement, parce que je veux qu'on dise un mot de la BBC à la française avec Agnès, je lui ai promis, on a 2 minutes 40. Donc
Très rapidement, 45 secondes pour répondre à votre question sur les fiscalité, impôts. Non pas sur les charges, et on fera une autre.
Mais on fera une réforme
sur un autre sujet, parce que là, je pense qu'on ne serait pas du tout d'accord tous. Sur les impôts, Nicolas, une règle fondamentale, quoi qu'on fasse, s'il vous plaît, on le fait de façon ponctuelle. La spécificité de la France, et j'élève la voix, c'est que quand on fait quelque chose de ponctuel, les 1% supplémentaires pour les plus riches, entre guillemets, pour les auditeurs qui ne me voient pas, il faut que ce soit ponctuel une fois. Le problème en France, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait de la CSG, des prélèvements sociaux supplémentaires, et CRDS, à chaque fois, comme par hasard, boum, 20 ans plus tard, on le retrouve là. À chaque fois. Donc la première règle, si vous voulez rendre compétitif l'outil impôt pour combler à un moment donné, c'est pas ce que je partage comme idée, un trou dans le budget, il faut que ce soit ponctuel. Et deux, il faut faire très très attention à ne pas faire de la centralisation et de la globalisation des règles, parce que ce serait encore une erreur. Un exemple pour notre ami Rivaton, si vous remontez les taux de TVA réduits en ce moment, c'est le dernier truc qui manque pour enfoncer la tête de tout le secteur immobilier une dernière fois, et de tout le secteur de la restauration, qui sont les deux plus gros pourvoyeurs d'emplois et qui sont en galère totale. Je finirai là-dessus, comme ça...
1 minute 30 pour marier Radio France et France Télé. Le sujet est dans les mains de l'Assemblée nationale et défendu par Rachida Dati, Agnès Michel. Il faut droit au but, parce que là, le timing est...
Plusieurs problèmes. Il n'y a pas de stratégie. On ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Il y a un problème aussi, la mutualisation d'une chose qui est, et vous êtes bien placé pour le savoir, la radio, c'est pas la télé, et inversement, ce sont quand même des médias différents, avec des propositions différentes et avec des auditeurs différents.
BFM Business, c'est radio-télé.
Mais enfin, c'est pas tout. Justement, vous voyez bien. D'ailleurs, on n'est même pas maquillé, donc on voit bien la différence. On nous regarde pas. C'est ça l'intérêt. Donc, on se concentre beaucoup plus sur ce qui est dit que sur la tronche des personnes. Et c'est très bien comme ça.
C'est très bien comme ça.
Et donc pas de stratégie, des métiers qui sont différents. Et puis, le cœur du problème n'est pas abordé. Si vraiment il y a un problème d'argent, très bien. On arrête toutes les productions de passer systématiquement par des producteurs privés. Là, il y a une manne d'économie énorme. On internalise un certain nombre de postes qui coûtent très cher, avec l'intermittence du travail qui n'est pas toujours légitime dans un certain nombre de postes. Mais arrêtons de faire n'importe quoi. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'avoir une BBC justement à la française qui dégrade son contenu, qui n'offre plus une variété de réflexion, de culture brute. Effectivement, elle sera peut-être pas rentable, mais c'est ce qui permet l'émancipation des personnes. Et je pense que si on s'assoit là-dessus, on va créer une génération de personnes qui seront prêtes, tout simplement, qui n'auront plus d'esprit critique et qui seront prêtes à suivre le premier leader Maximo qui va se présenter. Et ça, c'est un vrai risque. Et la culture publique, c'est un vrai barrage.
Grève 23 et 24 mai des syndicats de Radio France qui pensent qu'ils seront les perdants de l'histoire. Il y a cette leader qui met sans maquillage,
parce
vous êtes
qu'ils sont
tous
pas
plus beaux.
Voilà quelqu'un
sans maquillage, vrai,
vous êtes tous
c'est
tout à fait d'accord.
Bon, j'ai eu beaucoup de réactions sur la voiture individuelle. Waouh, vous allez faire un carton, enfin vous êtes avec sortie
de route. Mais écoutez, on va faire une spéciale
voiture individuelle. On fera une spéciale sortie de route, on va faire une spéciale baisse de la dépense publique. et la réforme de l'État.
Et surtout, penser à la culture. Oui, c'est quand même ce qui nous rend plus humains.
Je suis d'accord que sur les missions régaliennes, il peut y avoir un débat pour savoir si ça, oui, non. Ok. Mais il y a quand même des évidences. Par exemple, avec gérer des magasins dans les centres commerciaux, des aéroports.
De toute façon,
pas trop la mission.
Le centre commercial,
bon.
Déjà.
On ah arrête. Bon. Ah oui. Bon.
Ça va avec la voiture.
Sortez du centre commercial. Sorti de. Bon, c'est fini. Merci Agnès Michel, Guillaume Richard, Stéphane Van Uffel. Je crois qu'on a fait le programme que j'avais annoncé presque.
Eh ben bravo.
Pour une fois.
Eh ben, quelle efficacité.
Rendez-vous demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.